Virginie Langeroc.
À Blatten, la situation dans la vallée du Lotschental est pour l'instant satisfaisante. La nuit a été assez calme et la Lonza continue de s'écouler, déclarait ce matin le conseiller d'État valaisan Stéphane Ganzer. L'effondrement spectaculaire du glacier de Birch il y a 3 jours a enseveli le village de Blatten sous des millions de tonnes de gravats qui ont obstrué la rivière Lonza et formé un lac. Le système de vannes du barrage de Ferden qui a été vidé vendredi a été partiellement ouvert pour permettre à l'eau de s'écouler dans la rivière. Le risque est qu'une coulée de boue, qu'on appelle aussi lave torrentielle, atteigne le barrage. Lorsque celui-ci sera plein, il ne pourrait plus jouer son rôle de retenue et l'eau s'écoulerait de façon incontrôlée. Mais pour l'instant, la situation est donc maîtrisée, assure un responsable de l'organe cantonal de conduite du Valais. Et puis le ministre de la Défense, Martin Pfister, sera ce soir à Villers, village situé en contrebas de Blatten, pour y rencontrer et soutenir la population. Le conseiller fédéral s'était déjà rendu à Ferden mercredi, quelques heures après l'effondrement du glacier. La Russie revendique la prise d'un nouveau village dans la région de Soumy en Ukraine. Au total, 213 localités de la région sont déjà placées sous ordre d'évacuation. Plus tôt cette semaine, Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, avait affirmé que Moscou massait plus de 50 000 soldats autour de la région de Soumy en vue d'une possible offensive. L'armée ukrainienne, qui est moins nombreuse et moins bien armée, craint un nouvel assaut d'ampleur qui mettrait à mal ses ressources. Et au plan diplomatique, c'est un peu le dialogue de sourds entre l'Ukraine et la Russie. Moscou a proposé à Kiev de se retrouver pour de nouveau pourparlers direct ce lundi à Istanbul, après un premier rendez-vous qui avait été peu fructueux il y a 2 semaines. L'Ukraine n'a pas encore dit si elle acceptait. Et Kiev, de son côté, demande à Moscou d'accepter un cessez-le-feu immédiat. Cessez-le-feu proposé par Washington et soutenu par les Européens, mais le Kremlin s'y refuse pour l'instant. Un responsable israélien assure que son pays ne coopérera pas à une visite en Cisjordanie de ministres arabes des Affaires étrangères. Le chef de la diplomatie saoudienne veut en effet se rendre demain à Ramallah, en Cisjordanie. Selon la chaîne de télévision américaine CNN, des ministres des Émirats arabes unis, mais aussi d'Égypte, de Jordanie, du Qatar et du Turquie participeraient également à cette visite. Israël contrôle les frontières et l'espace aérien de ce territoire palestinien qu'elle occupe, ce qui signifie que son approbation est nécessaire pour que les diplomates étrangers puissent y entrer. Le temps cet après-midi, du soleil et quelques nuages d'altitude. En fin de journée et ou bien dans la soirée, quelques orages isolés pourraient éclater avec de fortes rafales à proximité. Température cet après-midi 28 à 30 degrés. Le temps sera à peu près le même demain, soleil et chaleur. Et dès lundi, les températures vont de nouveau baisser. Le ciel sera plus nuageux avec un risque d'averse ou d'orage dès la matinée.
L'actualité en continu sur l'application RTS Info.
Depuis 15 ans, le Palp Festival fait vibrer les montagnes et secoue les sommets. Plongeons givrés en lac d'altitude, musique et expo à l'ombre des châteaux, rock'n raclette sur les crêtes ou encore concert à 3000 mètres. Jusqu'au 20 septembre, découvrez le plus insolite des événements valaisans. Plus d'informations sur palpfestival.ch. Retrouvez l'événement qui décoiffe dans le Grand Soir du lundi au jeudi à 19h sur RTS Première et sur l'application Play RTS.
Écosystème. Une émission de Florence Farion.
Il y a quelques jours, nous étions le jeudi de l'Ascension, 40 jours après Pâques, l'élévation au ciel de Jésus ressuscité. Je suis pas certaine que ça touche beaucoup notre invité qui dit ne pas croire, la religion c'est pas sa tasse de thé, mais il est sans doute le chercheur le plus impliqué et le plus pointu sur les questions de la vie après la mort et les expériences de mort imminente qui sont sans doute parmi les phénomènes les plus fascinants et controversés de notre époque. Science et spiritualité seront donc au cœur de notre rencontre du jour. Croire ou ne pas croire en quelque chose, c'est un peu la question de sa vie, ou peut-être même la question un peu de notre vie, pour bien se l'avouer. Allez, bonjour et soyez les bienvenus. Bonjour Stephen Lorez.
Bonjour Florence.
Je sens que vous brûlez d'envie de réajuster un peu mes propos. En fait, quand je dis que la vie après la mort, c'est votre sujet, j'ai un peu forcé le trait, parce que votre sujet, c'est la conscience et, en ruissellement, on va dire, les expériences de mort imminente, c'est juste ?
C'est exact, oui. Donc, comme neurologue, je suis confronté à ces personnes qui sont dans un état critique. Comme médecin, on doit définir la mort. Et avec ce livre, c'est une invitation à réfléchir qu'est-ce qu'on sait vraiment sur ce phénomène extraordinaire qui est l'EMI.
Stephen Norreys, expert mondial reconnu du cerveau et auteur à succès, qui rend la science complexe accessible à tous. J'espère que vous serez à la hauteur de votre réputation, Stephen Norreys. Alors, dire que vous êtes directeur de recherche au fond de la recherche scientifique, fondateur du Coma Science Group et de l'unité de recherche Giga Consciousness à l'Université de Liège. Ça, c'était dans les années 2000, il y a déjà plus de 20 ans. Et vous êtes aussi professeur invité à Harvard. Vous avez publié environ 500 articles scientifiques. Vous avez été récompensé par la prestigieuse chaire d'excellence en recherche du Canada en neuroplasticité. Quand vous écrivez ce livre, vous vous dites, je sais que la communauté scientifique, en fait, personne n'est d'accord sur les perceptions, les visions de cette EMI. Ça agite très, très fort.
C'est un livre difficile à écrire parce que le sujet peut polariser. Je veux ici un débat un peu plus nuancé parce que c'est trop noir-blanc, j'y crois, j'y crois pas. Et donc c'est un défi pour le chercheur qui doit rester curieux, avec un esprit ouvert, mais avec une méthodologie scientifique. Qu'est-ce qu'on peut vraiment dire sur ce phénomène qui est une réalité neurophysiologique, il y a trop de ces témoignages, je pense qu'on l'a trop longtemps quelque part ignoré, pas pris au sérieux. Et en même temps, il y a plein de livres qui disent « Ah, c'est la preuve d'une vie après la mort ». Donc, quand on parle de preuve en science, quand même, la barre est haute. Donc, qu'est-ce qu'on sait vraiment ? On va tous mourir. Et comment est-ce qu'on peut mieux documenter ce processus neurologique de mourir et qu'est-ce qu'on peut dire sur ce phénomène ? Je sais qu'il va y avoir des critiques, certes. Parfois, j'ai l'impression d'être au milieu du pont et qu'on tire des deux côtés. C'est un livre qui ne donne pas une vérité absolue. J'essaye de ne pas être dogmatique, ni dans un sens, ni dans un autre. Je suis évidemment neurologue, donc mon domaine d'expertise, c'est les neurosciences cognitives, c'est l'activité cérébrale. On a mieux documenté une série de réseaux neuronaux qui sont importants pour les pensées, les perceptions, les émotions, mais on est loin d'avoir tout compris sur ce grand mystère qui est notre univers intérieur, la conscience humaine. Et puis à un moment aussi, je pense que ce n'est pas mon rôle de dire au lecteur, vous vous trompez, c'est telle ou telle partie du cerveau, à chacun qui a vécu ces phénomènes, et donner un sens à la vie, à la mort. Donc j'essaye de trouver ce juste équilibre entre ce que la recherche peut apporter et puis ce qu'on ignore et ce qu'on croit. Et là, par définition, c'est une croyance, on n'a pas de preuves. Et aussi, à titre personnel, je pense que j'ai fait un parcours avec une éducation chrétienne, ensuite l'université... À Bruxelles, c'était Scientia Vincere et Tenebra, c'est la science qui a réponse à tout, qui va nous éclairer. Mon métier, c'est d'essayer de avoir cette connaissance sur le fonctionnement du cerveau. Et en même temps, il y a aussi cette quête spirituelle et l'émerveillement. On est loin d'avoir tout compris sur ce miracle qui est la vie et de laisser la liberté à chacun de croire ou pas dans une vie après.
Chaque samedi, entre 13h et 14h, Écosystème sur RTS Première.
Et je me faisais cette réflexion en vous lisant, je me disais, est-ce qu'on est dans le plus on sait, moins on sait finalement ? Parce que depuis les années 2000, vous tournez autour de ce sujet de la conscience, vous avez beaucoup tourné autour des questions de sommeil, de méditation, etc. De tous ces états modifiés de conscience, on en parlera, mais est-ce que plus vous avancez en fait, en moins vous savez ? Ou il y a quand même des choses qui s'éclairent ?
Absolument. Et donc ça, c'est très important de le souligner. Je suis très heureux de pouvoir faire ce métier, d'être chercheur, avec les différentes équipes, attaquer un sujet qui, quand j'ai commencé, était encore tabou. Hein, dans les années 90, étudier la conscience, c'était très difficile de trouver des financements. Et ce n'est jamais une bonne chose quand on va s'auto-censurer en science. Je pense que c'est très bien que maintenant il y a beaucoup plus d'équipes qui s'intéressent à la conscience humaine. Les techniques de neuroimagerie ont évidemment beaucoup aidé. Et en même temps, ça peut nous rendre un peu arrogants comme neuroscientifiques de dire ben, on a compris, voilà le réseau de la conscience. On n'a pas de théorie qui explique vraiment ce qui se passe là entre nous. On s'entend, on a des pensées, on a des émotions. Donc il faut oser se remettre en question en permanence, mais évidemment on construit sur cette masse de connaissances qui quand même a permis aussi de mieux prendre soin des personnes dans le coma, par exemple, qui sont inconscients. On ne l'apprécie pas assez, mais l'expérience de mort imminente, c'est aussi en grande partie la technologie, les connaissances en médecine qui font que ce processus de mourir, on peut jusqu'à un certain point le rendre réversible et ramener des personnes après un arrêt cardiaque, après une hémorragie du cerveau, avec un trauma crânien. Mais clairement, et on l'a aussi étudié et publié, que maintenant on a plus de ces témoignages. Dans notre hôpital à Liège, au CHU, on a à peu près 15% des patients qui survivent des soins intensifs, peu importe la cause, qui, à la première question qu'on leur pose, est-ce que vous vous souvenez de quelque chose, disent oui. Et où on peut en effet avoir ces récits extraordinaires qui sont les EMI.
Cette conscience, justement, quand vous dites on est toujours, et on viendra évidemment aux EMI juste après, puisque c'est le sujet de votre ouvrage, mais évidemment que la question de la conscience, elle est centrale. Avec cette question, où est-elle? Quand je vous pose cette question simple et bête, on est encore incapable aujourd'hui d'y répondre. Où est notre conscience? On n'en sait rien. Est-ce qu'elle est dans notre cerveau? Est-ce qu'elle est quelque part? Est-ce qu'on l'appelle âme? Est-ce qu'on dit que c'est une espèce de gros nuage comme ça, dans le cloud, une sorte de chose dans à laquelle on serait connecté comme en Wi-Fi? Enfin, il y a toutes sortes d'hypothèses, mais en fait, aucune ne s'avère vérifiable, Stephen Lawrence.
Alors, on a fait des progrès grâce à l'IRM fonctionnel, à ces mesures de l'activité électrique. Je pense qu'avec l'équipe, on a quand même beaucoup participé à l'identification de ces différents réseaux qui sont importants pour mes perceptions. Donc ce que j'entends, ce que je vois maintenant, tout ce qui rentre par mes sens, il y a un réseau de la conscience du monde extérieur, au niveau du cortex associatif des deux hémisphères. Ça, c'est un. Il y en a un deuxième, ce qu'on appelle la conscience du monde intérieur, cette petite voix qui me parle en ce moment, qui me permet de anticiper qu'est-ce qui va arriver, d'apprendre de mon passé. Donc là, c'est à nouveau une petite région, c'est un réseau au milieu du cerveau. Et puis, il y a les émotions. Donc là, il y a le troisième. Ça nous permet de traduire ces connaissances vers une meilleure prise en charge des personnes avec des maladies du cerveau, de mieux comprendre cette neuroplasticité, parce qu'on a aujourd'hui une vision beaucoup plus dynamique de ce cerveau qui fait des connexions, des milliers de milliards de synapses en continu. Et puis, on essaye de proposer des théories de la conscience. J'ai fait un livre avec Giulio Tononi qui est à Madison aux États-Unis, The Neurology of Consciousness, où il y a cette idée que cette information doit être intégrée. Il y a des mathématiques derrière, on peut le tester, c'est ce qu'on a fait avec des techniques de neuromodulation, donc on peut stimuler le cerveau avec un aimant très puissant et lire en même temps la réaction électrique, ce qui est à nouveau utile aux soins intensifs chez des personnes dans le coma. Mais on n'y est pas encore. Je pense que ça va prendre quelques prix Nobel. Certains disent même que c'est impossible, que notre capacité cognitive, notre intelligence ne serait pas suffisante pour comprendre son propre fonctionnement, sa propre conscience. Mais mon philosophe préféré, Florence, est James Bond, Never Say Never. Naïvement, on continue à essayer parce que c'est trop important. Je suis confronté aux soins intensifs en rééducation avec ces personnes qui ont des troubles de la conscience. Et donc, oui, c'est compliqué. Peut-être qu'on va pas y arriver. Mais quand je regarde derrière moi en science, chaque fois qu'on s'est dit ça, hein, c'est impossible de savoir de quoi les étoiles sont faites. Eh bien maintenant, on peut le faire. Hein. Avec la spectroscopie, on a quand même fait des progrès. On a quand même réduit notre ignorance quand on parle de cet univers qui nous entoure. Hein. Là aussi, on est loin d'avoir tout compris, mais quand même. Et donc, je pense qu'ici, pour notre conscience, c'est important d'au moins essayer. C'est ce qu'on fait. Et je pense que les expériences de mort imminente peuvent être une fenêtre extraordinaire, mieux comprendre ou réduire notre ignorance quand on parle de la conscience.
Pour aller plus loin, la méditation, le sommeil, le rêve, les effets de l'anesthésie, la méditation, je l'ai dit, l'hypnose, et puis le coma, et évidemment ces morts imminentes pour étudier cette conscience, Stephen Lawrence. Vous restez notre invité jusqu'à 14h. On ne fait que commencer à ouvrir une toute petite porte sur cette expérience de mort imminente. Science et spiritualité, il sera question de tout ça. Jusqu'à 14h, le livre est paru aux éditions Odile Jacob et on va écouter cette très jolie chanson d'Émilie Loiseau qui parle de l'autre bout du monde, peut-être un coin de conscience quelque part. Elle l'avait écrite, je crois, si ma mémoire est bonne, suite au décès de son papa. A tout de suite sur RTS Première.
Sociaux, on questionne notre lien dans Égosystème chaque semaine.
C'est Égosystème aujourd'hui qui parle de ce sujet essentiel, les EMI, expériences de mort imminente, avec Stephen Lawrence, chercheur fondateur du Coma Science Group, c'est quelque part du côté de la Belgique, et aussi créateur d'une chaire d'excellence en recherche au Canada sur la neuroplasticité. En vous lisant, votre ouvrage, on a compris que ce sujet, notamment de la mort imminente, était vraiment quelque chose qui vous motivait. Vous racontez que vous êtes né un 24 décembre et que votre maman vous a confié longtemps après qu'elle-même était en état de mort imminente, enfin elle est passée dans quelque chose d'autre à votre naissance.
C'est exact. J'ai toujours su que c'était un accouchement difficile, une césarienne, elle a perdu beaucoup de sang. D'ailleurs, elle m'a dit, tu es là grâce à la médecine, donc maintenant tu vas à ton tour être médecin. Et ce rêve d'être médecin, mais ce n'est que donc beaucoup plus tard et après nos recherches sur ces EMI qu'elle m'a dit, en fait, moi aussi, j'en ai eu une qui n'était pas nécessairement typique dans le sens où beaucoup de nos témoignages sont caractérisés par ce sentiment de bien-être. Souvent, on n'a même pas les mots pour décrire cette absence de douleur, malgré quand même une situation critique, où ma maman ne l'a pas dit par peur d'être
prise pour une folle. Enfin, je veux dire, c'est souvent ce qu'on dit.
C'est encore trop souvent, oui. Donc là, il faut se remettre en question comme médecin. Et donc, je suis très, très content qu'on parle maintenant du sujet, parce que ce n'est pas une psychose, c'est vraiment une réalité neurophysiologique. Il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui ont vécu cela. Alors que dans notre cohorte, on a quand même des milliers de témoignages en Europe, en Amérique du Nord. 90%, c'est des expériences positives, mais donc celle de ma maman ne l'était pas. Et ça, c'est intéressant d'essayer de mieux comprendre où on a une étude en cours avec la Russie. Parce que quand je donnais une conférence à Saint-Pétersbourg, il y avait un prêtre, Fader Sergueï, de l'église orthodoxe, qui travaille depuis des années aux soins intensifs là-bas, qui me disait, quand tu nous dis que la grande majorité a ce sentiment de bien-être absolu, chez moi, pas du tout. La moitié, ils voient le diable, ils vont à l'enfer. Et donc, c'est intéressant de mieux comprendre quelles sont ces différences peut-être culturelles pour mieux documenter le phénomène.
Nous, c'est effectivement souvent en Occident le bout du tunnel, cette lumière, une rivière en Inde, une porte plutôt dans le côté proche oriental du monde. En fait, effectivement, ça pose la question de nos représentations, le paradis, l'enfer. Est-ce que cette douceur, cette infinie lumière, cette perception, cet accueil extraordinaire qui fait que même parfois on a du mal à réintégrer son corps tellement on est bien là-haut, comment on explique ça? C'est inexplicable.
Alors, c'est pour ça qu'il faut augmenter nos efforts pour essayer de mieux comprendre. Et donc, il y a une série d'hypothèses. Quand on parle, par exemple, de la décorporation, des personnes qui se voient de l'extérieur, on a pu identifier une région du côté droit, ici au milieu, où quand on va la stimuler, on peut provoquer ces décorporations. Donc, ça n'explique pas toute la nuit, mais c'est intéressant. Cette notion de lumière, de tunnel, j'ai beaucoup de patients avec des AVC, avec une lésion au niveau des connexions vers le cortex visuel, qui peuvent aussi, eux, avoir cette vision en tunnel. Et puis, il y a des structures dans le cerveau qui sont importantes pour les émotions, pour ce sentiment de bien-être. Et donc, on a pu essayer de recréer l'EMI dans un setting contrôlé. Donc, on a fait perdre connaissance des volontaires sains, y compris moi, avec 256 électrodes sur la tête. Et la moitié de ces personnes qui vivent en fait une syncope, donc c'est un manque transitoire d'oxygène, on perd conscience, et puis la moitié va par après nous raconter ce qu'ils ont vu, qu'il était dans une autre pièce, ce sentiment de bien-être. Et l'activité électrique mesurée lors de la perte de conscience, on a pu prédire quelle activité anormale dans le cerveau corrélée avec l'intensité de l'expérience qu'ils pouvaient partager par après. Donc ça, c'est intéressant. beaucoup plus difficile à faire quand il y a un trauma crânien, coma, arrêt cardiaque, parce que là, on a d'autres priorités. On n'est pas dans ces situations de mesures détaillées. Mais donc, il y a quand même une série de choses qu'on peut dire sur les différents aspects de l'EMI. Mais je pense en même temps que tant qu'on n'a pas vraiment une théorie qui explique ce grand mystère qui est notre conscience, il faut rester prudent. Et pourquoi pas, parce que je pense que quand je dis c'est polarisé, il y a aussi ceux pour qui c'est une preuve de l'âme, de l'esprit, de vie après la mort, d'une sorte de conscience cosmique qui n'a rien à voir avec l'activité cérébrale. On ne peut pas l'exclure a priori, ce ne serait pas très scientifique de dire ça doit être comme ceci ou cela. Et donc il y a des études qui ont caché des objets proche du plafond, dans les salles de réanimation, et qui, après, ont demandé, voilà, vous avez eu une EMI, des corporations, est-ce que vous êtes capable de me dire quel était l'objet caché là-haut? Et jusqu'à présent...
Personne, que, oui, personne.
Il y en a, et ça c'est très important, on l'a démontré aussi avec la neuroimagerie fonctionnelle, c'est pas parce que vous êtes dans le coma, que vous êtes inconscient, qu'il ne peut pas y avoir des perceptions, que vous ne pouvez pas entendre des voix, ce qui se passe même au bloc opératoire, etc. Mais pour cette vision d'un autre point de vue, ces décorporations, là, pour l'instant, il n'y a pas d'argument en faveur de l'hypothèse d'une conscience cosmique où le cerveau serait comme un récepteur radio ou télé. Mais à nouveau, on continue par tous les moyens possibles et imaginaires à aborder la question. On travaille aussi beaucoup avec des physiciens. Pour certains, la physique quantique peut être aussi une clé. Donc, c'est ça qui est fascinant avec la science. Ce n'est pas un livre avec des vérités absolues. C'est un livre qui est réécrit tous les jours.
Mais en même temps que je vous entends parler de ces histoires d'objets, et vous l'écrivez dans votre ouvrage, mais en même temps, pour avoir entendu ou vu des témoignages de personnes, notamment dans le temps présent, où vous vous exprimez un formidable temps présent d'ailleurs, je renvoie celles et ceux qui nous écoutent il est en ligne, je crois, en deux épisodes, mais vraiment, allez le voir, et Stephen Lawrence s'exprime dans ce reportage, mais c'est vrai qu'il y a aussi, pour certains, la capacité de raconter. Et même ce qui se passait dans la pièce d'à côté. Donc on voit que tout est très fragile, même dans les affirmations de « une étude n'a pas pu prouver », en même temps des témoignages avec force disent « bah si, on a vu nous ce qui se passait dans le couloir, notre famille en attente, et raconte des choses qui se sont avérées vraies après ». Donc c'est tellement compliqué en fait.
Oui, et c'est justement qu'on a besoin de plus d'études contrôlées, parce que en science, quand on dit c'est une preuve scientifique, la barre est très haute, et donc ce n'est pas facile. Mais au moins maintenant, il commence quand même à y avoir des chercheurs qui s'intéressent à ce phénomène.
Psy, philo, sociaux, on questionne notre lien dans Égosystème chaque semaine.
Et la question, c'est où qu'on va quand on meurt? C'est un peu la question auquel on viendra plus tard. Mais d'abord, c'est quoi mourir, Stephen Lawrence, en fait? Parce que il est important de se poser la question. Et en vous posant cette question, je pense d'abord à cette première étape. Quand vous nous expliquez, et ça a été une des premières grandes surprises de votre ouvrage, c'est que EMI, expérience de mort imminente, ces expériences-là, on ne les vit pas forcément quand on est aux portes de la mort ou quand on est un peu passé de l'autre côté. Vous mettez tous les mots que vous voulez. C'est-à-dire que ces EMI, elles peuvent se vivre quand on est bien vivant.
Oui, donc ce qui est très important de souligner, c'est que l'expérience de mort imminente, ce n'est pas des personnes qui sont mortes. C'est des personnes qui reviennent, qui n'ont pas été en mort cérébrale. Donc ça, c'est très important. La mort cérébrale, c'est la mort.
Les deux autres niveaux, pardon, c'est important de dire les deux autres niveaux, c'est au niveau de la respiration, les poumons et le cœur. En fait, on va dire que c'est les trois signes de vie.
Tout à fait.
Le cerveau, les poumons et le cœur.
Oui. Quand est-ce qu'on est mort? Justement, quand un de ces trois arrête irréversiblement. Et c'était assez simple, jusqu'à l'invention du respirateur artificiel. Parce que là, on commence à voir des dissociations où quelqu'un, après un accident par exemple, il n'y a plus de cerveau, mais grâce à cette machine, il continue à respirer. Mmh. Il y a une circulation, une activité cardiaque. Et puis, qu'est-ce qu'on fait ? Donc, cette invention-là, et ensuite le développement des soins intensifs, a obligé la médecine à redéfinir la mort. Pas uniquement sur des critères cœur-poumon, hein, mon cœur arrête de battre, le dernier souffle, mais sur des critères neurologiques. Et là, je peux quand même être rassurant, tout le monde qui nous écoute, depuis qu'on a ces critères de mort cérébrale, ça fait depuis les années 50, il n'y a aucune personne qui est revenue pour nous raconter ce que c'était de l'autre côté. Mais comme vous dites, on a beaucoup aussi de témoignages, ce qu'on appelle pas les « near death », mais les « fear death ». C'est des personnes qui ont eu un accident ou par exemple un alpiniste, il tombe et dans cette fraction de seconde, il est sauvé par la corde, mais il va vivre aussi cette expérience extraordinaire.
C'est dans la peur ultime, la peur de mourir vraiment, très très forte.
Alors que le cerveau n'a pas eu de trauma ou de manque d'oxygène. Donc il y a ceux-là. Et puis on a eu aussi beaucoup de témoignages des personnes qui l'ont eu pendant la méditation. Le sommeil, même l'orgasme, hein, la petite mort. Et donc, on a là une autre opportunité pour essayer de comparer ces récits. Hein, parce que finalement, quand ça se passe, ben, je ne peux pas le partager. C'est par après que je vais reconstruire, avec tous les biais aussi. Hein, donc, on a les neuropsychologues qui connaissent bien comment la mémoire, c'est une reconstruction. Et donc, pour nous, une belle opportunité de comparer comment est-ce que la cause de l'EMI peut impacter le vécu subjectif, comment est-ce que c'est différent ou similaire aux rêves lucides, à ces personnes qui prennent des psychédéliques, hein, qui ont aussi ce sentiment de bien-être, d'être un avec l'univers, qui va aussi très souvent changer ma vision de la vie, de la mort. Et donc, on a maintenant des outils en intelligence artificielle pour justement extraire les différentes dimensions et pouvoir tester une série de nos hypothèses neuroscientifiques.
Dr Stephen Norreys, l'expérience de mort imminente, science et spiritualité chez Odile Jacob. Et je vous propose de faire une pause, de reposer votre cerveau le temps d'écouter Andrew Bird sur la première avec Near Death Experience. C'est le titre choisi par Bastien Arnold. C'est un morceau des années 2010 qu'on va découvrir ensemble juste avant de revenir au sujet sur RTS Première.
Thank you.
Entre 13h et 14h, le samedi, on parle de vous. On parle de nous sur RTS Première.
Je me demandais comment nous allions terminer cette émission parce que dans ma tête, dans mon cerveau, je pense que Stephen Lawrence, si vous aviez branché des trucs, là, vous verriez que ça s'agite dans tous les sens. Parce que j'essaye de dire le plus possible, j'essaye de vraiment donner à celles et ceux une partie de la richesse de ce que vous nous partagez dans cette expérience de mort imminente, ce livre paru aux éditions Odile Jacob. Et j'ai commencé à vous mettre sur la piste de vos expériences personnelles parce que je disais que vous êtes non seulement chercheur, évidemment, un de ces grands spécialistes de la conscience, mais vous avez été assez fou pour tenter des expériences et vous n'avez pas fait semblant et vous n'en avez pas tenté qu'une. Vous cherchiez cette expérience de mort imminente, vous cherchiez cette lumière, vous cherchiez à vivre ce moment pour mieux le comprendre, mais manque de bol, en fait, vous n'y arrivez pas.
Mais je pense que c'est important de savoir de quoi on parle. Il y avait cette frustration, j'entendais toutes ces personnes que j'ai suivies aux soins intensifs, les témoignages qui nous sont envoyés. Finalement, malgré nos recherches, nos publications, je ne sais pas qu'il y a quand même une différence entre connaissance et expérience. Et donc, j'ai vécu une série de choses. Alors, comme vous dites, est-ce que c'est fou? Est-ce que c'est courageux? Peut-être un peu des deux.
Psilocybine, saut en parachute, hyperventilation, kétamine, plongée en apnée. Enfin, le catalogue, il est assez impressionnant.
Oui, mais enfin, c'était quand même toujours dans des situations contrôlées.
On est bien d'accord.
Ce qui m'a quand même le plus marqué, peut-être, c'était à Londres, dans une IRM, une injection de psilocybine, hein, de champignons magiques, donc une grosse dose. C'était intéressant, malgré tout ce que je connais sur le fonctionnement du cerveau, sur tous ces témoignages, mais quand j'étais là, tout devient un. Hein, ce que on entend, le bruit du scanner, je devais fixer une petite croix blanche, et puis j'avais plus même d'ego. Hein, à un moment, une infirmière qui vient tenir ma main, mais puis il n'y avait plus de main. Et donc, entre-temps, avec toutes ces expériences aussi, la centrifuge ou... en Varsovie, ben, j'étais exposé à plus de 7G jusqu'à voir en effet en tunnel et puis perdre connaissance. Et ça m'a permis de vivre l'expérience de ces différentes dimensions qui constituent une EMI. Et donc, je pense que c'est important comme chercheur.
Mais pour comprendre ces expériences de mort imminente, il y a des appels à témoins réguliers. D'ailleurs, on va en citer un, je crois que c'est l'Université de Laval pour lequel vous travaillez, qui encore lance un appel à témoins. Que cherchez-vous en fait à chaque fois? Ce sont des récits? Ce sont simplement des choses à remplir en ligne? Ou est-ce que vous convoquez les personnes? Enfin, comment travaillez-vous pratiquement, Stephen Lawrence?
Alors, grand merci pour cette opportunité, parce qu'on a besoin d'encore plus de témoignages. Ouais. On en a des milliers. Mais donc, contactez-nous. Il y a le courriel nde@ulaval.ca. Il y a le lien.
CA comme Canada, hein, parce que CH, c'est chez nous, c'est la Suisse. Mais c'est CA comme Canada.
Absolument. Et donc, on demande à ces personnes tout simplement de partager leur vécu. Donc, il y a une série de questions, hein, parce qu'on veut standardiser, mais aussi l'opportunité de simplement écrire qu'est-ce qui s'est passé et même dessiner. Hein, parce qu'il y a des personnes aussi qui disent « j'ai pas les mots ». Et donc, à nouveau, en amenant beaucoup d'illustrations, des dessins, y compris des enfants, pour essayer de mieux comprendre ce phénomène où très souvent, les mots nous manquent aussi. Et je pense que c'est ça qui se passe. C'est quelque part une émotion pure. Ou quand ça arrive, le cerveau et la personne qui le vit, il n'a jamais vécu ça et doit s'expliquer à lui-même. Et donc là, il y a déjà une reconstruction. Hein. Cet hémisphère gauche, il y a le réseau du langage qui essaye de donner un sens. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce que je peux l'expliquer? Et ensuite, le partager avec l'autre, qui est encore une autre difficulté. Mais donc, voilà aussi ce que nos recherches, parce que je vous ai dit, il y a l'étude Syncope, où on a, dans des situations contrôlées, reproduit le phénomène avec un monitoring de l'activité électrique. Et donc, on voit qu'il y a cette activité très profonde dans le cerveau, pour une pure émotion, hein, qui est non-verbale. Et ensuite, l'hémisphère gauche qui reprend, qui arrive à expliquer à lui-même qu'est-ce qui s'est passé. Donc, le besoin d'encore plus de témoignages, parce que c'est un peu comme le rêve, on sait de quoi on parle, hein, parce qu'on a tous rêvé, ici c'est différent, il n'y a qu'une fraction de la population qui a vécu cela. On a étudié, publié, qu'il y a des caractéristiques qui reviennent très souvent, mais quelque part aussi, chaque témoignage est unique. Et donc, on a besoin, dans des situations où il y a beaucoup de facteurs confondants, parce qu'aux soins intensifs, on donne beaucoup de médicaments, de drogues qui peuvent faire halluciner, personnes qui peuvent être fiévreux, délirants. On ne sait pas exactement quand est-ce que cela se produit, lors de la perte de conscience, lors du réveil ou entre ces deux moments. Donc c'est compliqué et donc vos témoignages sont très importants pour nos chercheurs. Je vous remercie d'avance.
Donc N comme Noémie, D comme Daniel, E comme Émilie, @ulaval, Université Laval, donc ulaval.ca. Voilà, si vous souhaitez déposer vos témoignages, c'est d'après ce que j'ai vu, une trentaine de minutes, voilà. Répondre à un questionnaire en ligne, et c'est important pour faire avancer la science. Une chose aussi commune à tous ces témoins, c'est que, en général, il y a un avant et un après. Mmh. Cette perception amène à un changement en général très profond chez celles et ceux qui le vivent. Stephen Lawrence.
Tout à fait, ça on le voit sur tous les continents, hein, parce que je vous ai parlé de la collaboration avec la Russie, avec l'Inde.
La Chine aussi, hein, je crois, vous allez en Chine. Ouais.
Donc c'est vraiment une réalité neurophysiologique universelle de tous les temps. On travaille maintenant aussi au Canada avec les Amérindiens, avec les autochtones. Hein. Et là aussi, pour eux, c'est une porte vers les ancêtres. Et donc, c'est très important de respecter l'interprétation de chacun et en même temps d'essayer d'avancer, de faire des recherches et d'identifier qu'est-ce qui est commun entre tout cela. Mais par exemple, aux États-Unis, des personnes, et je le décris dans le livre, qui vont voir Elvis ou Michael Jackson. Hein. Et aussi, on a posé la question, est-ce qu'on serait le seul animal à vivre cela, hein? Donc on a publié, on a été fort critiqué aussi en comparant ce qu'on peut observer chez l'animal qui à nouveau ne peut pas partager lors de ce processus de mourir, ce qu'il a éventuellement vécu. Donc un animal qui est en danger, il va se battre, s'enfuir, cette réaction de stress qu'on connaît aussi, et à un moment, il y a la paralysie. Et ça peut aussi, d'un point de vue évolutionnaire, hein, sauver l'animal parce qu'il bouge plus. Ça change la dynamique et il peut peut-être s'échapper. Il y a cette notion que peut-être l'EMI a un avantage de survie et que on ne serait pas le seul animal humain à le connaître. Et là aussi, il y a des études chez, par exemple, le rat, où on peut contrôler le processus de mourir et mesurer l'activité électrique, et on voit que juste avant que ça s'éteint, il y a comme un orage, une augmentation impressionnante de l'activité électrique et la signature d'une activité consciente. Alors, est-ce que c'était une EMI ou pas? C'est en tout cas intéressant de mieux comprendre ce processus non linéaire de mourir. Et paradoxalement, on a là une situation où on ne ressent plus la douleur. Hein. Alors on peut corréler avec la production d'endorphines. Donc dans le livre, je propose un peu cette idée, et c'est ce qu'on observe, que quand je suis en danger, il y a le système nerveux autonome avec le système orthosympathique, hein, qui va relâcher toutes ces hormones de stress, ma tension artérielle qui monte, ma fréquence cardiaque, c'est important de fuir ou de me battre. Et puis on a l'autre pédale parasympathique qui fait l'inverse. Et ici, c'est peut-être une situation où on met coup de gaz et le frein en même temps, qui peut donner cette situation particulière, cette constellation neuronale où je peux vivre paradoxalement ce sentiment de bien-être, de décorporation qui, en effet, peut me protéger. Hein. C'est ce qu'on voit aussi pour ceux en situation de guerre ou des agressions. On l'a vu aussi avec nos études en hypnose. C'est un état de dissociation. Je suis ailleurs, quelque part, pour me protéger.
Stephen Lowrey's L'expérience de mort imminente, votre essai aux éditions Odile Jacob, est riche. On finit de le parcourir juste après avoir écouté Édith Piaf avec ce nom « Je ne regrette rien », quelques deux minutes de la voix de Piaf pour mieux retrouver celle de notre invité, Stephen Lowrey's.
Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, c'est payé. J'ai allumé le feu, mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin d'eux. Balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, car ma vie. Ça commence avec toi.
Dans cette dernière partie d'Égosystème, nous avons gardé Stephen Lowrey's, expert mondialement reconnu du cerveau, des états modifiés de conscience, fondateur du Coma Science Group à Liège et de la chaire d'excellence en recherche au Canada en neuroplasticité, qui s'est lancé dans ce grand sujet de l'expérience de mort imminente après avoir écrit sur le sommeil, après avoir écrit sur la méditation. Est-ce qu'on peut dire juste deux mots, Stephen Lowrey's, de ce mieux de la fin? Je ne sais pas comment vous l'appelez, vous, en Belgique. C'est-à-dire ce moment où on a l'impression que quelqu'un, avant son départ, c'est une affaire de jours ou d'heures, recouvre un certain nombre de facultés comme pour solder le dossier de la vie avec ceux qu'il aimait. Est-ce qu'on peut imaginer que c'est aussi un état modifié de conscience et on peut le rapprocher peut-être de l'EMI d'une manière ou d'une autre?
Oui, tout à fait. Je pense que dans ce processus de mourir, travailler aussi en soins palliatifs, oui, c'est des moments uniques où cette motivation, cet amour, ce contact avec l'autre permet de, avant de s'éteindre, encore avoir une lucidité. Les cliniciens le savent très bien, le voient, c'est pas un processus linéaire. Et donc, c'est une invitation aussi avec le livre qui parle de la mort, mais qui parle aussi et surtout de la vie et de ce cadeau qu'on n'apprécie pas nécessairement. Et donc, oui, il y a ce moment où il y a une reprise des facultés cognitives que beaucoup de personnes qui étaient là peuvent partager.
Dans ce livre, L'expérience de mort imminente, paru aux éditions Odile Jacob, le sous-titre est le science et spiritualité. On a commencé à évoquer effectivement les affaires religieuses au tout début en disant voilà, on est quelques jours après ce jeudi de l'Ascension. Fort est de constater quand même que toutes les religions, et vous l'évoquez dans votre ouvrage, ont cette idée de l'après. Donc, science et spiritualité dansent bien ensemble, Stephen Lawrence, ou c'est pas si simple ?
Historiquement, ce n'était pas simple. Mais c'est vrai que très longtemps, c'était le domaine des religions. Hein. Et là, j'ai tout le respect pour mes amis qui sont catholiques, bouddhistes, musulmans. J'en ai parlé avec Mathieu Ricard, et j'en parle dans le livre sur la méditation avec le Dalai Lama. Là, il y a cette notion de karma, de réincarnation. J'étais au Vatican, j'ai discuté avec le pape. Et en même temps, il y a le scientifique qui veut vraiment comprendre et avancer. C'est vrai que la mort, ben, c'est quand même la frontière ultime, parce que on ne sait pas. Hein. Donc ça, je laisse au lecteur donner un sens à la vie, à une éventuelle vie après la vie. Mais je pense que, en tout cas, c'est mon parcours individuel. Moi, j'ai eu une éducation chrétienne, j'ai prié, catholique, et puis l'université, on se pose des questions. Et j'étais plus satisfait de celle de physique qui allait chaque fois plus loin. Et en même temps, je pense que la science n'a peut-être pas la réponse à toutes les questions, et que ce besoin de spiritualité, ben pour moi, il est aussi présent que le besoin de manger, de boire. Et ça, c'est une quête personnelle, hein, où il y a le chercheur qui veut comprendre et expliquer, et ensuite, il y a quand même cet émerveillement devant le mystère de la vie, de la conscience. Et je pense que l'un peut complémenter l'autre. Après, je reste un chercheur pur et dur qui peut faire la différence entre, voilà, ça c'est ma croyance personnelle, et ça c'est l'état actuel des connaissances scientifiques. Et en même temps, plus qu'on étudie le sujet, bah, plus qu'on comprend que finalement, on n'a pas compris autant que ça.
Mais c'est pour ça que je vous posais la question au début. Je vous disais, en fait, plus on sait, moins on sait. Et ben, c'est un peu ça quand même que vous finissez par nous dire.
Et en même temps, j'invite tous les brillants cerveaux qui nous écoutent à faire ce choix, faire la science. Il y a, comme je disais, encore quelques prix Nobel à gagner pour ce grand mystère qui est notre conscience.
Écosystème sur RTS Première.
Ce que j'aime, c'est quand vous parlez du décès de votre papa, cette notion d'éternité. Je me souviens d'avoir rencontré Sœur Emmanuelle, à qui je parlais justement de cette vie éternelle. Et elle me disait, mais en fait, l'éternité, c'est comment vous ferez vivre ceux qui ont disparu. Et c'est ce que vos fils vous disaient lors d'un exploit sportif, en disant, voilà, on le fait pour notre grand-père. Et c'est peut-être ça, la vraie question de l'éternité.
Oui, je pense que tant qu'il y a quelqu'un qui pense à nous, on continue à vivre quelque part. Hein. C'est en effet la réalité pour chacun de nous qui ont perdu un proche, mais qui continue à prendre une place importante. Après, il y a aussi, et ça devient peut-être aussi plus difficile, des personnes qui vont proposer des services à rentrer vraiment en contact, hein, avec la personne décédée.
Des séances de médiumnie, vous parlez de ça.
Oui. Voilà, ça peut faire du bien, et en même temps, ça peut être un défi pour le clinicien. Est-ce qu'on peut s'occuper de ces personnes-là dans le deuil et leur communiquer ce que leur fils proche décédé leur communique, oui.
Mais c'est drôle parce que c'est une porte que vous n'ouvrez pas tellement dans votre ouvrage. Il y en a déjà tellement à ouvrir, vous me direz, bon voilà. Mais je me permets, puisque vous allez sur ce terrain-là, le curieux que vous êtes n'a pas tenté, en tout cas vous partagez pas ce genre d'expérience, d'avoir tenté de savoir, parce que c'est aussi une manière peut-être de se questionner sur la conscience et ce qu'elle devient et qu'y a-t-il après.
Oui, donc il y a là aussi des études qui ont essayé, hein, dans des situations contrôlées, d'avoir un signe de l'au-delà vérifiable. On en a discuté aussi avec Mathieu Ricard, et donc cette réalité dans le monde bouddhiste, hein, qu'il n'y a pas uniquement une vie après, mais qu'il y avait aussi des vies avant, et comment le vérifier. Mais jusqu'à présent, ces études n'ont pas convaincu la communauté scientifique, Mais le grand défi, c'est comment est-ce qu'on le traduit vers une théorie falsifiable qui permet vraiment d'être ou pas vérifié. Donc, c'est là où les possibilités scientifiques s'arrêtent et ça devient alors philosophique. Et ça, c'est à chacun d'avoir son point de vue. Mais c'est clair que on voit quand même qu'il y a de plus en plus de laboratoires qui vont au moins essayer. Et donc, je pense que c'est trop important parce qu'il y a des implications cliniques. Et je suis convaincu que dans les années à venir, on va encore voir plus de découvertes. Et dans le livre, je résume un peu les deux dernières décennies. Mais je reste convaincu que maintenant que le sujet n'est plus tabou, il va quand même y avoir des découvertes. Peut-être pas la vérité absolue, hein, si elle existe, néanmoins qu'on s'y intéresse.
Quelques lumières de plus. Stephen Lawrence, je vous remercie. Je disais au début de cette émission que vous êtes un partageur. Ben voilà, on en a eu la preuve. Partageur à l'oral, partageur à l'écrit, l'expérience de mort imminente, science et spiritualité. C'était le sujet du jour laissé par aux éditions Odile Jacob. Est-ce que vous avez un mot de la fin où je pense qu'on a quand même dit beaucoup de choses? Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose juste avant qu'on se quitte?
À juste vous remercier et prenez bien soin de vous et profitez de la vie.
Merci.
Merci à vous.
Ce titre de Bumblebees, pour se quitter, dernier choix de Bastien Arnold, de notre programmateur. Vous donnez encore un nom à la distribution de cette émission, c'est celui d'Alexandre Lemierre au studio parisien. Évidemment que le livre de Stephen Lawrence est disponible dans toutes les bonnes librairies. Évidemment que l'émission est en ligne sur notre Play RTS, ainsi que sur le site et sur la page d'Egosystème. On se retrouvera la semaine prochaine, bien entendu. Sur ces mêmes ondes, samedi dès 13h, c'est notre rendez-vous. À très vite, RTS Première, il est déjà 14h.